Merci, je suis ravie de participer à ce colloque en tant qu'actrice de la société civile. Je trouve très encourageante cette initiative menée par Monsieur le Sénateur Labbé. Je les remercie ainsi que toute son équipe. Donc je vais partager très volontiers mon temps de parole avec Julien, collègue dans ce travail de valorisation des huîtres naturelles. Je vais donc vous proposer de découvrir l'histoire de la sentinelle du goût et du travail des Slow Food donc en 6 petites minutes. Julien nous parlera ensuite du rôle joué par le réseau Cohérence dans cette démarche et de leur initiative. Donc la sentinelle des huîtres née en pleine mer est un projet qui est né il y a 6 ans de la volonté d'un cercle restreint mais soudé d'acteurs, parmi lesquels le réseau Cohérence bien sûr, des ostréiculteurs traditionnels, j'en cite deux, Jean-Noël Yvon et Laurent Thomas, qui ont choisi donc le dialogue et l'action pour faire face à une crise accrue et sauvegarder la biodiversité naturelle et humaine liée au métier d'ostréiculteur. Donc ces projets visent à informer et mobiliser aux côtés de ces artisans et paysans de la mer, les consommateurs mangeurs, soucieux de l'avenir de l'ostréiculteur. Mais qu'est-ce qu'une sentinelle du goût de Slow Food? Donc une sentinelle est un projet de sauvegarde et de promotion du patrimoine et de la biodiversité alimentaire qui est mené par les groupes de Slow Food avec l'appui de la Fondation Slow Food pour la biodiversité. Donc via ces projets, Slow Food relance la production d'un aliment ou d'une variété végétale ou d'une race animale menacée de disparition. Par sa promotion auprès des consommateurs, des artisans des métiers des bouches, des institutions et bien sûr des chefs cuisiniers. Il s'agit donc de projets de relance d'une économie locale de petite et moyenne échelle qui se propose de rassembler tous les producteurs et les acteurs concernés. Les projets Sentinelles du goût de Slow Food sont aujourd'hui plus de 400 dans le monde entier. On en trouve au Madagascar, en Mauritanie, au Brésil, mais aussi en Suède avec le peuple Sami. En France aussi, il y en a une trentaine, pour en citer quelques-unes, le Petit Épôtre de Provence, le Port Nord des Bigorres, la lentille blonde de la Planèse, plutôt que le chou de l'Orient, etc. Et donc les huîtres naturelles nées en mer, les huîtres bretonnes naturelles. Sur ça, on pourra revenir après. Quelques mots sur Slow Food. Donc, né en 1986 dans le sud du Piémont, ces mouvements ont vu ratifier sa charte trois ans plus tard à Paris. C'est un mouvement qui est basé sur une devise très simple. Proposer et valoriser et promouvoir une nourriture bonne, propre et juste. Slow Food compte actuellement 120 000 membres répartis dans à peu près 150 pays donc du monde entier. Et le but de ce mouvement international, de cette association, est de contrer la standardisation des goûts et la banalisation des aliments et des produits qui sont désormais souvent perçus comme des simples carburants à manger pour assouvir un simple besoin physiologique qui est celui de se nourrir et donc d'avoir de l'énergie. Donc notre travail va vraiment dans ce sens-là, donc contrer la standardisation des goûts, et découle d'un phénomène assez inquiétant qui est la passivité des consommateurs et des mangeurs. Aujourd'hui, notre consommation alimentaire dépend beaucoup trop de la production industrielle, sans vouloir la stigmatiser ou la diaboliser, absolument pas. D'ailleurs, on parle de production industrielle, que ce soit dans le bio ou dans la production industrielle de tout bord. Donc aujourd'hui, nous ne savons plus reconnaître le lien essentiel entre nourriture et nature, et entre les produits et l'origine de ces produits, et entre les produits et les hommes et les femmes qui les produisent, les élèvent, gèrent les ressources marines, par exemple. Donc, Slow Food essaie de sensibiliser, entre autres, les consommateurs, mais tous les autres acteurs de la chaîne de production et consommation alimentaire et agricole. Donc, il y a un concept très simple. Nous sommes tous coproducteurs. Nous sommes tous co-responsables. À travers nos choix, bien entendu, nous allons impacter les styles de production, les styles de consommation. Donc, par rapport à la sentinelle donc, des huîtres naturelles nées en mer, pour nous, bien sûr, c'est essentiel d'avoir un étiquetage, mais cela dérive du fait que, pour nous, c'est important que chaque consommateur, mangeur, puisse être libre dans son choix et faire un choix libre. Donc, pour nous, l'étiquetage ne doit pas prendre vraiment en compte toutes les mesures de sécurité. Ce n'est pas ça qui nous inquiète. Nous avons entièrement confiance en les producteurs, dans les ostréiculteurs. C'est eux les premiers garants, de leur travail. Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc, il y a confiance absolue dans leur travail. Par contre, c'est important de stimuler les consommateurs, les mangeurs, pour qu'ils se posent des questions, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils deviennent donc coproducteurs.
30 secondes et conclusion.
Très bien. Alors, Julien va continuer à parler des étiquettes, donc je ne vais pas m'éteindre là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons avec ce projet de Sentinelle du goût ? Nous travaillons donc avec les ostréiculteurs traditionnels pour surtout réfléchir à des questions qui les inquiètent. Donc, on les met en relation avec des techniciens. On travaille avec les consommateurs mangeurs, bien sûr, pour mener des actions de sensibilisation. On travaille avec les chefs cuisiniers pour présenter ces produits. Et bien sûr, on propose une ouverture vers l'international. Il faut savoir que Zulu Food organise aussi plusieurs forums mondiaux de réflexion, de discussion, de débats, plusieurs salons. Donc nous invitons les ostréiculteurs à participer au salon Zulu Fish, par exemple, qui est un salon thématique qui se tient tous les deux ans à Gênes, et également à Terra Madre, qui est un forum mondial qui rassemble 5000 paysans, éleveurs, pêcheurs, artisans des métiers de bouche venant du monde entier. Donc c'est vraiment un moment d'échange privilégié. Pour intégrer finalement une force collective et en espérant qu'elle va mijoter une révolution alimentaire.
Merci beaucoup. Et désolé de vous presser un petit peu, comme je vais hélas presser Julien Pondavène. Non, c'était très bien, pas de souci. Ah bon, elle parlera après. Et justement, on va avoir un temps de débat. C'est ce que je voudrais avoir. Julien Vandaven, s'il vous plaît, 6 minutes.
Démateur, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici au Sénat. Alors, d'où je parle ? Cohérence est un réseau associatif, un collectif d'une centaine d'associations et d'adhérents individuels qui s'engagent dans une transition citoyenne vers un développement durable. On a deux grands thèmes d'intervention, tout ce qui est lié à la démocratie participative, au développement durable. Et c'est lié aussi au débat qu'on a aujourd'hui, et puis à tout ce qui touche à l'eau, l'agriculture, à l'alimentation. Alors avant de vous parler des huîtres, puisqu'on a travaillé sur le sujet, comme vous l'a dit Lucha, je vais vous parler du porc. Évidemment, les Bretons, dès qu'ils arrivent quelque part, ils vous mettent à vous parler du porc, avec un C, parce que en fait, le réseau s'est créé en 99 avec justement la nécessité de créer un dialogue avec des éleveurs qui vivaient comme vous une crise économique, sociale, environnementale, et qui cherchaient une solution. Et avec des associations de défense de l'environnement, des consommateurs, parce que cohérence c'est ça, c'est une alliance de ces différentes structures, acteurs, eh bien on s'est mis à réfléchir sur un cahier des charges, et comme on ne pouvait pas le faire certifier par un tiers, on s'est engagé sur une certification participative. C'est-à-dire que le cahier des charges qui est issu d'un débat, d'un échange entre les professionnels et des consommateurs, où chacun a pu expliquer ses attentes et aussi ses difficultés, ses contraintes, eh bien, de ce cahier des charges citoyens, eh bien, on s'est engagé, nous, sur une certification participative, c'est-à-dire que c'est les consommateurs qui viennent chez l'ostréiculteur, enfin, en l'occurrence chez l'éleveur, et puis après, ensuite, chez les ostréiculteurs, pour vérifier que la personne s'engage dans cette logique du développement durable et solidaire. C'est ce qu'on appelle aussi les systèmes participatifs de garantie. Et donc, après notre expérience sur le porc, où actuellement on a mis en place une marque authentique, parce qu'on avait écrit comme ostréiculteur traditionnel au ministère en demandant une identification pour les porcs élevés de système sur paille, on nous avait dit non, c'est pas possible, trouver un signe déjà existant, c'était pas le cas. Donc on a créé une marque, et on a actuellement donc un partenariat avec une vingtaine de boucheries charcuteries qui distribuent sur les Côtes d'Armor ces produits-là. Et en fait, je vous explique ça parce que c'est un peu dans cette même logique-là qu'on a travaillé avec les ostréiculteurs, puisqu'à partir de 2009, donc Lucia a cité Jean-Noël Divon, Laurence Maillot, il y a eu Jérôme Noir aussi, sont venus nous voir en disant « on veut identifier nos pratiques, on veut travailler avec vous, on veut une reconnaissance de la société civile sur ces bonnes pratiques et on veut que vous apportiez votre regard sur notre métier. Et puis on veut échanger. » Et donc on a mis en place un cahier des charges qui était basé, alors je vous fais les grandes lignes, hein, mais sur des coquillages 100% nés en mer, nés élevés en mer, un nombre maximum d'huîtres par poche, donc une densité bien particulière, une extensification, la mise en place d'une traçabilité, mais aussi un tri des déchets. Et donc ensemble, on s'est mis d'accord sur ce cahier des charges qui s'est inscrit dans cette logique de l'éducation populaire via l'outil de la certification participative. Et c'est à peu près en 2010 qu'on a rencontré le mouvement Slow Food qui nous a proposé de devenir une sentinelle. Et derrière cette idée de sentinelle, ça nous plaisait beaucoup parce qu'à la fois, on venait en protection d'un éleveur, d'un ostréiculteur, et puis on se mettait aussi en co-responsabilité parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur une profession en disant bah, « il n'y a qu'à faucon, vous n'avez qu'à produire propre et puis après nous on dispense ». Non, on est bien en co-responsabilité, consommateurs et producteurs autour de ces productions-là. Et puis, parce que, je vais citer Gambetta qui disait « la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux agriculteurs ». La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires ». Je crois que c'est un peu le même état d'esprit sur beaucoup de sujets. L'ostréiculture, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seuls ostréiculteurs. Il y a aussi une nécessité, nous, société civile, de nous engager, les élus, les distributeurs, le monde économique aussi. L'ostréiculture, pour nous, c'est l'affaire de tous. Et donc, parce que les scientifiques, les ostréiculteurs ont témoigné tout l'après-midi en disant que le milieu était bouleversé. Il se passe quelque chose. Or, on sait qu'un milieu est d'autant plus fragile que sa biodiversité diminue. Et il en va de même, d'ailleurs, pour les cultures. Et le modèle, selon Cohérence, le modèle qui est né dans les écloseries porte atteinte à cette biodiversité. On a besoin d'un milieu sauvage qui se croise, dont le patrimoine génétique évolue parce qu'on est en dynamique, mais on a besoin de cette biodiversité pour avoir un milieu, un écosystème stable, sachant que nous-mêmes faisons partie de cet écosystème, et l'appauvrir, c'est quelque part nous mettre en danger. Alors, évidemment, le sujet est assez compliqué, mais on doit se mettre en responsabilité. On ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier. À travers mon acte d'achat, eh bien, évidemment, je cautionne aussi un certain nombre de pratiques ou je soutiens des pratiques vertueuses. Et nous, on est convaincus à Cohérence qu'il faut mettre de la transparence. Il faut de la transparence. Il faut que le consommateur, on lui demande d'être éco-responsable. Il faut qu'il ait les moyens de le mettre en œuvre, cette responsabilité. Et je vous invite à mettre en place l'étiquetage. C'est à vous de le mettre en place parce que sinon, il vous sera imposé à l'aube d'une crise qui viendra, certainement. Je vous invite à voir l'esprit de la crise de la vache folle ou les différents scandales alimentaires qui ont lieu. Si vous ne le mettez pas en place, vous le subirez. Et donc, je vous invite aussi à vous décaler légèrement et à regarder vos collègues, les paysans de la terre, comment est-ce qu'ils se sont mis en place. Tous les jours, des dizaines de milliers d'agriculteurs, d'éleveurs, pratiquent l'agriculture biologique, certifient leurs produits, ont leur filière, écoulent leurs produits, les consommateurs les trouvent. Chaque année, des dizaines de milliers d'éleveurs s'engagent dans les filières animales sans OGM, on l'a évoqué avec la filière qualité Carrefour, et chaque jour, des éleveurs coopèrent. Des éleveurs, des agriculteurs au Brésil fournissent du soja non OGM, qui arrive jusqu'aux éleveurs en Bretagne, entre autres, et puis jusqu'à l'assiette du consommateur via un certain nombre d'intermédiaires. Si les paysans ont réussi à le faire, j'ai aucun doute sur le fait que vous, les paysans de la mer, vous puissiez le faire aussi. C'est une question de volonté, c'est une question d'avenir pour vous, parce que si vous ne l'anticipez pas, eh bien, vous allez le subir.
30 secondes et conclusion. Ah ben voilà, formidable.